Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Ça, ouvre-moi, ou le chasseur me tuera. Lapin, on triga. Me serrer la main, me serrer la main.
Ça, c'est mon petit garçon. Il vous a probablement fait craquer avec sa petite chanson. Moi, je suis Shane Love, maman solo, auteur du blog Mademoiselle Love, et je connais l'envers du décor. Et vous, vous écoutez Le Tourbillon, le podcast qui parle de la maternité, la vraie, loin des filtres Instagram. Pour ce nouvel épisode, j'ai reçu Claire, maman de deux petites filles. Cela n'a pas toujours été le cas pour elle, mais petit à petit, Claire a forgé sa carrière professionnelle en fonction de sa vie de famille, pour être certaine de ne rien louper, pour garder du temps pour son essentiel. Aujourd'hui, elle est devenue ce que l'on appelle une slasheuse et s'épanouit pleinement dans ce schéma-là. Dans cet épisode, Claire nous raconte son parcours depuis sa première maternité. Elle nous explique aussi ce qu'est une maman slasheuse et comment elle gère ses différentes activités au quotidien. Bonne écoute! Bonjour Claire, je suis ravie de t'accueillir pour ce nouvel épisode.
Merci à toi.
Alors, quel poste tu occupais avant de devenir maman ?
Alors, avant ma toute première fille, j'étais serveuse dans des brasseries parisiennes. J'étais arrivée dans le milieu de la restauration un peu par hasard, mais c'est un secteur d'activité que j'ai appris à aimer, donc je l'ai fait pendant plusieurs années.
Et à quel moment de ta carrière, à quel âge tu as décidé d'avoir un bébé ?
Alors, je fais partie de ces extraterrestres parisiens, parce que j'ai été maman assez jeune, et ça choque généralement à Paris, parce que j'ai eu ma fille, j'avais 21 ans. Okay. J'ai accouché dans une clinique du 16e, donc autant te dire que le jour de mon accouchement, on m'a dit « Oh, un bébé qui fait un bébé !» parce que j'étais côtoyée par surtout des mères d'une quarantaine d'années, donc voilà, je passais un peu pour l'extraterrestre du coin.
Et est-ce que ça a été compliqué pour toi de l'annoncer à tes supérieurs ou pas du tout ?
Bah, c'était facile à l'époque parce que je travaillais avec mon compagnon dans une de ces brasseries. Donc pour le coup, il était totalement concerné par la question. Donc non, ça ne lui a pas posé de problème particulier, effectivement. Ça a été facile à annoncer, ça, pour le coup.
Et alors, comment s'est passée cette première grossesse ?
Plutôt bien. Je n'ai pas eu l'honneur cette fois-là de connaître les nausées matinales diurnes de début de grossesse. Non, elle a été plutôt facile. La fin a été plus compliquée. Il a fallu que je me repose à partir du 7e mois parce qu'elle était pressée de sortir. Mmh. Mais dans l'ensemble, franchement, j'ai connu une jolie grossesse.
Est-ce que tu t'es sentie tout de suite à l'aise dans ton rôle de maman ?
À l'aise, oui. Malgré tout, c'est un chamboulement, c'est une vraie révolution dans le couple, hein, d'avoir un enfant. En plus, j'étais plutôt jeune, mais j'étais mûre. Donc à 21 ans, j'étais totalement prête à être mère. Ça n'a jamais posé problème, mon âge par rapport à la maturité pour être mère. Donc j'étais, oui, complètement prête. Malgré tout, aujourd'hui, avec le recul, je me dis que j'ai pas vécu ma jeunesse comme beaucoup de gens la vivent. C'est pas un regret. Ma fille m'a posé la question hier. Elle m'a dit « Mais tu regrettes pas de m'avoir eu si jeune ?» Pour le coup, c'est vraiment pas un regret. Mais c'est vrai qu'il y a des choses que j'ai pas vécues comme tout le monde parce que j'ai été maman tôt. Ouais.
Quoi, par exemple ?
Oh, ben, quand je vois tous ces couples qui font le tour du monde, qui voyagent énormément, qui font tous les festivals, qui... Voilà, ça, moi, je l'ai pas connu, en fait. Non. Dans ma post-adolescence, ça n'a pas été marqué de tout ce que tout le monde connaît, quoi.
Et alors, pourquoi tu voulais avoir un enfant si jeune ?
Mon compagnon de l'époque était plus âgé que moi. On avait 12 ans de différence, donc lui commençait à avoir ces envies-là. On était stables tous les deux professionnellement parlant, puisqu'on travaillait ensemble. Pour moi, il n'y avait pas de frein à avoir un enfant. J'étais prête, j'étais avec quelqu'un qui était... voilà, droit dans ses bottes, stable, etc. comme moi. Donc c'était pourquoi pas, en fait. Pourquoi pas avoir un enfant jeune ? Ma mère m'a eu jeune. Donc c'est vrai que c'est un peu choquant pour nos générations qui attendent au moins la trentaine pour avoir des enfants. Mais moi, c'était pas du tout un obstacle. Et je trouvais ça assez naturel, en fait, d'avoir un enfant avec lui à ce moment-là.
Tu es retournée bosser tout de suite après ton congé maternité ?
Alors non, pas du tout, parce que malheureusement, nous n'avions pas de mode de garde à ce moment-là. Donc il a fallu que je prenne une pause dans ma vie pro. Ça me plaisait aussi hein, de me dire que j'allais pouvoir profiter de ma fille, mais rapidement je me suis rendu compte que malheureusement j'étais pas du tout faite pour être mère au foyer. C'est un statut que je respecte vraiment énormément, parce que j'ai pu voir à ce moment-là tout ce que ça impliquait de s'occuper de son enfant à temps plein en fait hein, et de manquer quelque part de lien social que l'on peut connaître sur notre lieu de travail. Donc c'est une période que j'ai assez mal vécue malgré tout en tant que femme en fait. J'étais épanouie en tant que mère, mais la femme criait en moi un besoin de liberté et de sortir et de voir des gens et d'utiliser mon cerveau peut-être un peu plus aussi. C'était très compliqué à ce moment-là.
Et ça a duré pendant un an ?
Ouais, ça a duré un an jusqu'à ce qu'elle marche et qu'on puisse avoir une place en halte-garderie à côté de chez nous. Heureusement, j'avais trouvé quand même des babysitters de temps en temps qui venaient me dépanner 2-3 jours dans la semaine pour pouvoir avoir des activités. Je m'étais remise à la peinture, par exemple, à ce moment-là. Donc, je faisais de la peinture grâce à la ville de Paris dans un atelier. Mais voilà, il me fallait ces moments d'oxygène, en fait, en dehors de la maison, absolument. Et quand elle est partie à la halte garderie, ça a vraiment été une libération, pour le coup.
Et tu disais que vous n'aviez pas trouvé de mode de garde, donc la crèche, c'était, vous aviez eu un refus, j'imagine, et il n'y avait pas de nounou de dispo ?
La nounou allait nous coûter l'équivalent de mon salaire, donc autant te dire qu'on a vite fait le choix, en fait, de dire il vaut mieux que tu restes à la maison plutôt que de payer une nourrice et laisser ton salaire dedans, quoi. Donc ça a été un peu un choix par dépit, et en même temps, voilà, je renie pas le fait que j'ai eu la chance de pouvoir profiter de la première année de ma fille et de la voir grandir, faire ses premiers pas, etc. Donc c'est chouette, malgré tout. Mais c'est vrai que quand on est une femme qui crie son indépendance, c'est compliqué à gérer.
Et comment vous avez fait le choix de savoir si c'était toi ou ton chéri à ce moment-là qui allait garder votre fille ?
C'était vite, vite vu, puisque lui était gérant de 3 restaurants à ce moment-là, de 3 brasseries parisiennes. Donc impossible pour lui de se libérer, et puis je crois que la question s'est même pas posée en fait. C'était d'emblée à moi de sacrifier ma vie pro, et c'était quelque part un peu logique aussi.
Et alors un an plus tard, retour au travail, tu es retournée dans le même boulot ?
Alors j'ai voulu reprendre mon job avec lui dans une de ses brasseries. Je me suis vite rendu compte que pour notre bien-être à tous les deux, il valait mieux que chacun ait son activité. Donc j'ai décidé de chercher un job à côté. J'avais pas une grande confiance en moi à ce moment-là. Je t'ai pas dit, mais pendant mon arrêt d'un an, j'avais essayé de me lancer en tant que freelance graphiste, puisque moi c'est ma formation de base, je suis graphiste. À ce moment-là, encore une fois, quand t'es maman au foyer et avec une confiance en soi niveau moins 50, c'était compliqué de se lancer en tant que freelance, donc ça a pas marché. Donc voilà, retour au monde du travail aussi très compliqué, à se dire qu'est-ce que je sais faire ? Pas grand-chose en réalité, si, mais non. Donc je suis tombée sur une annonce d'hôtesse d'accueil et on m'a parachutée un peu par hasard au siège d'Apple France à ce moment-là, qui a été une grande opportunité pour la suite en fait.
Et pourquoi à ce moment-là, c'était plus trop possible de travailler avec le papa de ta fille ? Est-ce que la maternité, ça avait changé quelque chose du coup au sein du couple ?
Je pense que ça m'avait permis, cette pause de un an, de réaliser que c'était son espace à lui et que j'avais pas forcément envie d'empiéter, et surtout que j'avais envie de me construire, moi, toute seule, comme une grande personnellement, sans effectivement être dans son espace à lui. Voilà, donc j'avais cette quête d'identité, en fait, qui a été assez importante. J'ai eu ce retour au graphisme aussi qui m'a dit « C'est pas ça ton métier de base, est-ce que ce serait pas cool d'y revenir ?» Donc hôtesse d'accueil, autant te dire que j'y suis pas du tout revenue, hein, mais malgré tout, je commençais une route qui m'était personnelle et que je m'appropriais moi.
Et ça, c'est une réflexion que tu as eue pendant ces un an de mère au foyer ?
Je pense que je ne l'ai pas réalisé tout de suite, puisque j'ai quand même retenté de bosser avec lui après, au démarrage en fait, de ma reprise. Mais j'ai très rapidement vu, oui, qu'on se marchait un peu dessus. Tu vois, j'avais perdu cette collaboration qu'on avait depuis quelques années dans ces restos. Et je me sentais plus à mon aise et plus légitime de bosser à ses côtés, en fait.
D'accord. Et alors, nouvelle vie professionnelle chez Apple.
Je n'étais que hôtesse d'accueil à ce moment-là.
Ouais. C'est très bien.
C'est déjà... Non, pas du tout de son métier, mais c'est vrai que c'était une entrée, une première entrée.
Et comment tu t'es organisée, comment vous êtes organisée à ce moment-là pour la gestion vie pro, vie perso, vie de maman?
J'étais à temps partiel, donc je commençais le boulot à 13h, donc ça me laissait largement le temps le matin de la déposer tranquillement à la halte garderie. Et je terminais à 19h, donc généralement c'était lui qui allait la récupérer le soir.
D'accord. Et donc ensuite, vous vous séparez avec ton chéri. Et toi, tu poursuis du coup quelques temps en solo ta carrière de maman. Et...
Tout à fait. J'ai le bonheur de connaître ce statut de maman solo comme beaucoup de femmes aujourd'hui. Ça n'a pas été facile. J'ai eu la chance qu'il m'a quand même pas mal soutenue malgré tout. Il m'a pas laissé gérer la situation toute seule non plus. Donc on se sépare et je reste dans ce job seulement quelques mois parce que je me suis vite rendu compte qu'être hôtesse d'accueil à temps partiel, ça allait pas nourrir ma fille et payer toutes les factures. Donc il fallait urgemment trouver une situation plus stable et plus sécuritaire, quoi.
Et t'as fait quoi alors du coup ?
Eh bien, ça a été le coup de pied aux fesses qu'il me fallait depuis quelques temps déjà, puisque j'ai eu la chance de rencontrer, dans le cadre de mon boulot d'hôtesse, les recruteurs de chez Apple Retail qui ouvraient à ce moment-là les premiers Apple Store en France. Et en discutant un soir avec eux, par hasard, je leur dis que j'étais graphiste de formation. Et là, ils me disent « Non, mais tu sais qu'on cherche ton profil, en fait, pour les Apple Store ». Je tombe un peu dénue parce que pas du tout geek dans l'âme, donc je me dis ouais, ok, mais pourquoi? Et là, il m'explique qu'effectivement, les formateurs en Apple Store sont forcément des profils créatifs, donc photographes, graphistes, ingénieurs du son, etc. Okay. Et que du coup, voilà, mon profil les intéressait. En plus, ils l'avaient vu dans le cadre de mon boulot d'hôtesse d'accueil, j'avais un contact facile, j'étais très sociable. Donc ça, typiquement, c'était les compétences et les soft skills qu'ils cherchaient à ce moment-là pour ces postes-là. Et ça, c'était encore quand j'étais avec mon ancien compagnon. Donc, si tu veux, c'était rentré par une oreille et c'était sorti par l'autre direct parce que je ne m'imaginais pas du tout en train de bosser en Apple Store. Mm. Parce que pas geek, quoi. Et du coup, quand tu cherches un job plus sérieux, là, ça te revient à l'esprit et tu te dis, bon, je vais tenter ma chance, même si je ne m'imaginais pas du tout, encore une fois, être formatrice là-bas. Je me suis dit, là, t'as plus le choix, en fait. Il faut tenter. Je passe les entretiens, ça se passe très bien, et je suis embauchée. Donc, tu passes d'hôtesse d'accueil dans un siège social à formatrice, donc un boulot que j'avais jamais fait de ma vie. C'était vraiment perturbant de se dire qu'on m'avait recrutée pour des compétences que je ne réalisais pas encore, en fait. Mais ça s'est très bien passé.
Et alors, tu rencontres un nouveau chéri quelques années plus tard. Vous faites un deuxième enfant.
Tout à fait.
Donc, 9 ans plus tard, tu me disais.
Ouais. On a attendu un peu de vivre notre vie de couple. Déjà avant, on avait Ella en garde alternée en plus. Donc, une semaine sur deux, il a appris aussi le rôle de parent, lui, de son côté, puisqu'il n'avait pas d'enfant. Et ça a été une bonne formation pour la suite. Ouais.
Et alors, comment s'est passée cette deuxième grossesse, 9 ans plus tard ?
Pour le coup, elle a été un poil plus compliquée, puisque pas une belle période de la vie parisienne avec tous les attentats qu'on a connus. Donc j'ai été assez... Je me rends compte avec le recul, hein, parce que sur le coup, je n'ai pas réalisé, mais les attentats parisiens ont beaucoup, beaucoup, beaucoup affecté... ma grossesse et ont eu un impact sur moi d'étonnant. Je pense que les hormones de grossesse ont décuplé ce qu'on a vécu à ce moment-là tous. Donc pas une grossesse facile. J'ai eu des contractions à partir du 4e mois de grossesse.
Ah oui.
Donc autant te dire que j'étais un peu en stress et en panique que ça se passe mal. Et mon médecin, mon gynéco m'a dit assez rapidement, il va falloir se calmer et arrêter de bosser parce que là, c'est plus possible en fait. Mmh. Donc au cinquième, ouais, à peine sixième mois de grossesse, je faisais de l'hypertension et il m'a arrêté à cause de ça parce qu'il m'a dit, vous allez faire, ça va très mal se passer en fait. Vous pouvez faire une, je sais plus comment on appelle ça, une hyperclampsie, j'ai plus le terme, voilà. Mais ça pouvait être dangereux pour le bébé et pour moi, donc.
Et alors, comment ça se passe quand on annonce sa maternité chez Apple ?
Ça se passe plutôt bien. Ce qui était plus surprenant pour eux, c'était de connaître le papa, puisqu'on bossait ensemble dans la boîte et que quasiment personne n'était au courant qu'on était en couple. Donc quand lui et moi, chacun de notre côté, on a annoncé qu'on attendait un bébé et qu'il allait avoir congé maternité et congé paternité, ça a fait sourire et... Et ça a été la surprise pour beaucoup de gens. Mais non, ça s'est plutôt bien passé. Ce qui a été compliqué, c'est que moi, je travaillais sur le magasin, sur l'espace du magasin. On donnait des formations dans le magasin, sur le floor. Et les positions que j'avais pour faire mes formations étaient assez difficiles à gérer au bout de 3-4 mois de grossesse. Mmh. Donc, ils ont dû me faire un aménagement de poste. Et me mettre souvent en arrière-boutique pour gérer des tâches qui étaient plus simples à gérer assises, en fait. Et ça, c'est vrai que dans un univers d'hommes, puisque il y a quand même beaucoup plus d'hommes que de femmes chez Apple, ils apprenaient cette situation-là aussi. Il a fallu un peu improviser avec moi, parce que j'étais une des premières femmes enceintes dans le cadre d'un Apple Store, donc ça n'a pas été facile au départ, et il fallait me trouver des tâches à accomplir, et c'est vrai que les premières semaines, ils savaient pas forcément quoi me faire faire. Ouais. Donc aller au boulot et te dire tu sais pas ce que tu vas faire de ta journée, ça peut être un peu compliqué parfois. Mais non, il y a eu beaucoup de bienveillance malgré tout. Ils ont fait en sorte de m'aménager mon temps de travail et ça s'est plutôt bien déroulé jusqu'à ce que je sois véritablement arrêtée pour cette hypertension en fait.
Et alors donc, maman de deux petites filles, à nouveau rythme, comment tu réussis à ce moment-là à jongler entre carrière professionnelle et vie de maman, avec ton conjoint, bien sûr.
Alors, c'est l'avantage d'avoir un grand écart d'âge entre ces deux enfants. Mmh. C'est que Ella était quand même assez autonome et elle allait bientôt rentrer au collège. Donc, on a réussi à jongler assez rapidement entre les deux parce que, voilà, elle était capable aussi de faire plein de choses toute seule. Donc, j'avais pas deux enfants en bas âge à gérer, par exemple. Ou là, effectivement, quand t'es dans les couches avec les deux, c'est pas facile. Elle était vraiment autonome et c'était une grande fille déjà. Donc, en réalité, j'ai beaucoup géré Lou, la deuxième. Et la vie s'est construite, ma vie professionnelle s'est rapidement construite autour d'elle, en fait. Je me suis rendu compte avec la naissance de Lou que j'avais encore plus envie de consacrer du temps à ma vie familiale, même si je le faisais quand même déjà avec la grande. Mais là, j'allais plus construire ma vie professionnelle et ma famille allait subir, si tu veux, cette vie professionnelle. C'était l'inverse. Mmh. Il fallait que ma carrière se construise autour d'elle. Donc il y a eu un vrai changement de cap à ce moment-là, en fait.
Donc, qu'est-ce que tu t'es dit à ce moment-là ? Qu'est-ce qui s'est passé comme réflexion ?
Très rapidement, après le congé maternité, en fait, j'ai tout de suite demandé un congé parental pour travailler en 4-5e.
D'accord.
Et j'avais donc des horaires fixes, parce que ça aussi, dans le retail, tu as des horaires qui font 8-16, midi 20, 11h-19, donc t'as pas de stabilité, si tu veux, pour ta vie de famille. Donc je m'étais rapidement dit, le congé parental, il va régler tout ça, tu auras des horaires fixes et tu auras un jour par semaine à dédier à tes enfants. Donc j'avais demandé effectivement à avoir mon mercredi, plus du coup les week-ends. Ça aussi, dans le retail, le week-end, tu bosses normalement. Donc c'était vraiment un avantage de se dire que j'aurais une vie classique et normale, entre guillemets, avec mes week-ends. Mon compagnon étant dans les RH, en plus il avait souvent ses week-ends, donc on allait en plus se synchroniser sur notre temps de travail. Voilà, donc on était vraiment dans une bonne voie pour construire une vie de famille stable et leur accorder du temps à elles deux, quoi.
Et ça a été facilement accepté, tout ça
Ouais, tout de suite. Franchement, j'ai pas eu à batailler. J'avais envoyé le mail avant la fin de mon congé maternité et on s'est on s'est mis d'accord en deux échanges de mails, quoi. Donc, vraiment aucune difficulté.
Génial. Et alors, pendant combien de temps t'es restée sur ce rythme 4-5e?
Alors, ma fille est née en 2016. Ça a duré un peu plus d'un an et demi environ. Puisque bah, je comptais le faire pendant toute la durée légale, c'est-à-dire les trois premières années de ton enfant. Mais malheureusement, j'ai vécu quelques événements qui m'ont fait remettre en question ma carrière dans cette boîte. On a eu une journée animée avec l'attaque qui s'est passée au Louvre, l'attaque sur les Sentinelles, et qui nous a forcé à être en confinement pendant quelques heures. Ça a été un événement assez traumatique pour moi. Et puis quelques mois plus tard, je faisais carrément un burn-out avec l'accumulation de tout ce qui s'était passé ces dernières années. Et ça a vraiment été une période de grosse remise en question et de grosse remise à plat de qu'est-ce que je voulais pour la suite. Est-ce que je voulais poursuivre cette carrière qui, pour moi, n'avait plus grand-chose à m'apporter? J'avais appris énormément pendant ces 8 années. Mais j'étais arrivée à la fin de ma carrière là-bas. Qu'est-ce que je faisais pour la suite, en fait? Et c'était assez étrange d'aller sur LinkedIn, de regarder les annonces et de se dire « Je suis capable de rien faire d'autre, en fait. » Et c'est assez paralysant de se dire « Ok, ma vie, elle doit se passer dans une seule boîte, uniquement. Je suis capable de rien d'autre. » Et j'ai eu la chance, du coup, de pouvoir prendre cette réflexion pendant tout l'été, de lire beaucoup de livres de développement personnel, et à la rentrée de remettre les choses à plat et de tomber par hasard sur une newsletter qui parlait d'une start-up qui proposait un coaching en reconversion qui s'appelle Switch Collective. Et je me suis dit, voilà, elle est là, en fait, la solution pour trouver quelques clés à tes questions actuelles. Et ce qui a été le cas, puisqu'en 6 semaines de programme, je crois qu'au bout de la 2e séance, j'avais déjà décidé de quitter mon job et de créer ma boîte, en fait.
D'accord.
Et au fur et à mesure des exercices, c'était pas une entreprise que j'allais créer, mais deux, en réalité.
Et alors, comment t'as fait pour cumuler cette formation et ton job?
C'était assez bien foutu, parce que, bon, ils avaient conscience dans cette start-up que les gens n'allaient pas se lancer comme ça du jour au lendemain, quitter leur boulot et enchaîner avec le coaching. Donc on avait en fait des séances prévues le soir après le boulot, de 19 à 22h. Et puis on a fait 2 samedis, journée complète de coaching intensif. Et oui, le programme durait 6 semaines. Donc il y avait ces 2 samedis plus 4 ou 5 séances le mardi soir.
Et alors, à quel moment tu t'es dit « j'arrête ma carrière chez Apple et je me lance » ?»
Comme je te dis, le deuxième soir de ce coaching, ça a été un peu une révélation, et je me suis dit « ok, en fait, t'es arrivée au bout du chemin chez Apple, il est temps de changer et il est temps de te lancer, puisque je t'en ai pas encore parlé, mais effectivement, j'avais passé un CAP cuisine en 2014. J'avais pris un congé individuel de formation. La cuisine me titillait depuis la naissance de ma première fille. Mmh. Je cuisinais pas du tout. Hein. À ce moment-là, je brûlais tous mes plats. mais quand elle est née, je me suis dit « Ok, t'as pas envie de lui acheter des petits pots industriels dans lesquels tu sais pas exactement ce qu'il y a dedans. Donc il faut s'y mettre, en fait. Il faut se mettre à faire ses petites soupes et ses petites compotes. » Et la cuisine est arrivée comme ça dans ma vie, même si on bossait dans la restauration, donc on était un peu quand même dans le jus. Mais moi, encore une fois, je savais pas du tout cuisiner, et j'ai appris en lui faisant ses petits plats. Et puis petit à petit, c'est devenu des plats de bébé à des plats d'adultes. Mmh. Et j'ai pris goût à ça, et la passion a grandi au fur et à mesure des années. Et à ce moment-là, mon nouveau compagnon voyait que j'étais pas heureuse dans mon boulot, donc... Il m'a dit, fais quelque chose, avance dans ce processus de reconversion professionnelle et passe ton diplôme déjà. Donc j'avais pris mon congé individuel de formation financé par le fonds GESIF. Et j'étais partie 8 mois pour passer mon CAP cuisine. Donc ce projet a mûrissé en fait depuis plusieurs années. Et en envisageant mon départ de chez Apple, il est vite remonté à la surface en mode, bah, il est peut-être temps en fait de se lancer. Mais ça faisait 4-5 ans déjà que j'y réfléchissais et que je me disais quelle est la bonne solution, parce que tu sais très bien que t'as pas envie de bosser dans un restaurant, t'as pas envie de tuer ton temps familial dans cette carrière là. Donc comment faire pour avoir un projet dans la food qui soit compatible avec ta vie de famille? Et c'était pas aisé, hein. Mais mon coaching m'a révélé que si, il y avait moyen de construire un projet en respect avec ma vie de famille, mais il fallait du coup que je crée ma boîte, en fait, pas que je sois salariée.
Et donc, tu es devenue ce qu'on appelle une maman slasheuse.
Tout à fait, puisque quand j'ai décidé de quitter mon job, mon CDI, le Graal, en sortant de ce coaching de 6 semaines, c'était deux entreprises qui étaient claires et nettes dans ma tête. Il fallait que je continue mon activité de formation parce que j'avais appris à aimer ce métier profondément et je me sentais à l'aise et légitime dans ce métier-là en plus. Donc j'ai décidé de monter mon entreprise pour le faire en indépendante.
Donc continue à faire des formations Apple.
C'est ça.
À ton compte.
À mon compte. Donc, je propose toujours des formations pour les particuliers et les entreprises, mais je me déplace à leur domicile ou dans leur boîte pour faire ça. Et ça s'appelle C'est plus clair. Et du coup, le projet de food arrivait quelques mois plus tard. Donc, j'ai commencé par la création de cette première boîte au mois de mars. Et l'activité de traiteur, elle allait naître au mois de septembre.
Et alors, comment on gère tout ça
Alors, je ne suis pas du tout dans l'optique de tous ces entrepreneurs qui se disent « ma carrière, c'est ma vie ». Moi, encore une fois, j'avais vraiment envie de garder une place prépondérante à ma famille. Donc mon temps de travail, c'est vraiment calqué sur ma vie de famille. J'ai des horaires, on peut dire, de fonctionnaire, puisque j'accompagne la petite à la crèche le matin vers 9h, 9h30, et je la récupère le soir vers 17h30, 18h. Et je me suis dit, ton temps de travail doit vraiment rentrer dans ce cadre-là. Voilà. Donc, assez rapidement, j'ai réfléchi à comment être plus efficace et comment faire de mes journées des moments d'hyper-productivité pour être ultra-focus sur les quelques heures que j'avais et abattre le travail de quelqu'un qui resterait peut-être 8 ou 10 heures justement à plancher et aussi à faire du présentéisme. Ouais, voilà.
Ou à procrastiner.
Moi, j'ai effacé de mon planning tous ces créneaux de procrastination et de présentéisme. Quand je suis au boulot, je suis là, je suis présente et je bosse au taquet pour faire en sorte qu'en 6-7 heures, j'ai abattu tout le travail.
Et t'as un planning spécial pour tes deux entreprises ? Est-ce que t'as bien réparti le temps pour chacune ?
Ouais, j'ai essayé de me mettre ce cadre dès le début parce que sinon c'est ingérable. Donc le lundi, mercredi, vendredi, j'ai ma casquette de formatrice. Et le mardi, jeudi, j'ai ma casquette de traiteur. Alors, c'est plus ou moins applicable puisque quand tu fais de l'événementiel, et c'est le cas de mon activité de traiteur, bah forcément, les commandes ne sont pas forcément le mardi et le jeudi. Hein. Je ne vais pas dire à mes clients « Non, mais faites votre événement jeudi soir parce que moi, ça ne m'arrange pas. » Donc, c'est variable. Voilà. Il faut être disponible quand même pour répondre à la clientèle. Mais en tout cas, les jours où je n'ai pas d'événement, je fais en sorte de rester concentrée sur quand même Pluche, donc mon activité de traiteur, le mardi et le jeudi, pour avancer sur mon site, pour faire de la prospection, à toutes les activités annexes que tu as en tant que chef d'entreprise. C'est ces deux journées-là.
Et alors, qu'est-ce que c'est être une maman slasheuse, ou en tout cas une slasheuse ? C'est un terme qui est assez récent. On voit qu'on découvre beaucoup qu'on peut avoir finalement plusieurs activités et que ça se passe très bien.
Alors, je pense que le phénomène du slasher date d'il y a très longtemps, en réalité. Et il y a beaucoup de mamans qui se disent slasheuses parce qu'elles sont à la fois maman et à la fois femme active. Hein, donc, c'est pas quelque chose de nouveau comme phénomène. Par contre, je crois que ce qui est nouveau, c'est le fait de le revendiquer et de l'assumer complètement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je n'ai absolument pas honte de donner ma carte de visite qui est double face. L'une avec C'est plus clair et l'autre avec Pluche, tu vois. J'assume complètement le fait d'avoir différentes activités qui n'ont en plus rien à voir l'une avec l'autre. Et je pense que ça, c'est un phénomène qui date de quelques années seulement, effectivement, et d'où l'entrée du terme slasher dans le dictionnaire cette année, tu vois. Je pense qu'on le revendique vraiment et que la société se rend compte que c'est quelque chose qui va être pas normal, mais qui va se développer de plus en plus, en tout cas. Que les profils n'ont plus peur d'avoir plusieurs activités et de pas forcément avoir un seul CDI dans une seule boîte, qu'on peut avoir effectivement différentes casquettes. Mais les freelances le font depuis hyper longtemps. Il y a plein de gens qui sont graphistes, photographes, webdesigners, et déjà, c'était des slasheurs. relatif puisque dans le même secteur d'activité, mais c'est quand même des slasheurs, donc c'est pas nouveau comme phénomène, mais le fait de le revendiquer, ça par contre, oui, je pense que c'est la nouveauté.
Et il y a plein de mamans du coup qui se mettent en freelance aussi. À ton avis, ça vient de...
Bah, encore une fois, hein, je pense qu'on est nombreuses à faire en sorte, et à vouloir faire en sorte en tout cas, que notre activité professionnelle soit respectueuse de ce temps familial qu'on a envie d'accorder. Et que le salariat aujourd'hui n'est pas forcément approprié à ça, malheureusement. Il y a plein d'entreprises encore qui vont t'imposer des horaires fixes et pas du tout aménageables pour ta vie de famille, qui vont pas t'autoriser à faire du télétravail. Voilà, donc toutes les conditions en fait idéales pour pouvoir gérer ses enfants à l'extérieur et pas forcément optimisées avec le salariat. Donc forcément, on cherche des solutions. Et le freelancing en fait partie de ces solutions, clairement.
Et est-ce que tu transmets quelque chose par rapport à ça à tes filles ?
Je pense qu'elles sont à la source de toute façon de toute cette réflexion. L'arrivée de Lou a été aussi une révolution psychologique pour moi et de qu'est-ce que je voulais leur transmettre comme valeur et comme image de la femme. Et aujourd'hui, alors la grande le réalise plus et on en discute de manière plus approfondie, mais... j'ai envie de leur montrer qu'il ne faut pas attendre une vie professionnelle toute cuite qui vous tombe entre les mains à la fin de vos études et qu'il faut quelque part aussi se construire son propre modèle. C'est ce que je revendique aussi en tant que slasheuse, c'est que je suis en train de construire un nouveau modèle pour l'ensemble des femmes, mais aussi des hommes potentiellement. Et que le format du CDI n'est plus le format unique et qu'il faut vraiment envisager d'autres solutions pour avoir une vie meilleure et qui nous ressemble plus en réalité. Donc oui, c'est des valeurs et un concept que j'ai envie de leur éduquer et de leur montrer que il n'y a pas qu'un seul format possible et qu'on peut se créer son propre format.
Il y a souvent des mamans qui n'osent peut-être pas se lancer parce que la sécurité avant tout, surtout quand on a une famille à nourrir. Qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller ?
Je le conçois tout à fait parce que je pense que le principal frein à mes projets professionnels, ça a été ça. Ça a été de me dire c'est pas raisonnable. T'as des enfants, déjà avec ma grande, hein, t'as une enfant à nourrir. La deuxième a aggravé un peu la situation, on va dire. Donc clairement, la première réflexion que tu te fais, c'est ce petit diable sécurité qui est sur ton épaule et qui te dit « Non, ce n'est pas raisonnable de faire ça. » Et en même temps, je sentais la frustration grandir en moi et avoir un impact sur ma vie familiale. J'étais irascible, je leur criais plus dessus le soir parce que j'étais épuisée physiquement et psychologiquement. Donc ça commençait à nuire à ma vie de famille en réalité. Donc je savais très bien que prendre des risques, c'était quelque part sécuriser cette vie de famille et leur être plus agréable. Après, je ne vais pas te cacher que le fait que mon compagnon soit salarié de son côté, il y a cette sécurité. Tu te dis, bon, bah, si malheureusement, je ne remplis pas moi la gamelle, lui a quand même un job stable et sécuritaire qui le fera. Donc il y a cette chance-là. On est très sécurisé en France aussi avec le contexte de Pôle emploi et du chômage que tu touches. Moi, je sais que ça a été mon business angel, hein, cette première année, d'avoir des indemnités chômage et de te dire, bon, si tu n'y arrives pas, tu touches quand même le chômage et ça va t'aider à te lancer. J'ai pas compté dessus dès le début. C'est-à-dire que je me suis dit très rapidement, il faut faire du chiffre d'affaires. Il faut que tu gagnes ta vie et il faut que ton activité de formation soit rentable très rapidement. Donc c'est vrai que je voulais quand même éluder ce matelas de sécurité très rapidement pour me dire il faut être efficace et il faut faire en sorte que tu gagnes ta vie en fait sans compter sur le chômage. Ce qui est le cas aujourd'hui. Si je touchais pas le chômage, ce serait pas un problème. Donc tu vois, ça fait un an et demi que je me suis lancée, donc ça a été quand même assez rapide. Mais malgré tout, voilà, tu as cette idée en tête de les mois difficiles. Il y a ça qui sécurise la donne, quoi. Donc c'est pas négligeable.
Ou peut-être faire une transition douce entre un nouveau projet, garder un peu son emploi.
Il y a beaucoup de femmes qui font ça, effectivement, qui arrivent à trouver l'énergie. Moi, je les admire, hein, parce que très sincèrement, quand j'étais salariée, même en 4-5e, j'arrivais à la maison, j'avais pas l'énergie pour faire d'autres choses à côté. Hein. Et le mercredi, il était consacré aux enfants, donc j'avais pas non plus le temps pour développer ces projets-là. Donc je suis admirative de ces femmes qui arrivent à faire ça le soir après le boulot et après avoir couché les enfants, ou le week-end quand ils font la sieste. Moi, j'ai pas réussi à le faire, donc il fallait forcément avoir une rupture définitive avec l'emploi pour pouvoir lancer définitivement ces projets-là, quoi.
Et alors, qu'est-ce que ça a changé en toi, la maternité ?
Qu'est-ce que ça a changé en moi ? J'ai compris beaucoup de choses sur ce que mes parents m'avaient inculqué comme valeur et m'avaient montré en tant qu'exemple de parent, c'est-à-dire ce côté sacrificiel de tout pour l'enfant. Je pense que quelque part, il faut trouver un équilibre, parce que c'est pas forcément bon d'être dans le tout sacrifice pour ses enfants. Mais c'est le schéma que je reproduis instinctivement. Hein. C'est moi, je vis au travers d'eux et avec eux et pour eux. Je pense que quand tu as des enfants, il y a ce côté égocentrique qui s'efface complètement. Et tout ce que je le fais au travers de leurs yeux. Tu vois, monter mes boîtes. J'aime voir les yeux de ma fille briller quand elle voit tous les projets que j'accomplis. Il n'y a pas longtemps, je suis passée à la télé et les deux, elles étaient émerveillées de me voir à la télé. Voilà, je pense que c'est cette fierté-là que je recherche aussi en elles, et leur amour inconditionnel me porte en fait pour avancer dans mes projets. Donc il y a cette transmission et il y a cet amour dans leurs yeux qui est juste incommensurable et que j'avais jamais connu avant.
On va passer aux petites questions de fin d'épisode. C'est quoi pour toi être une maman parisienne ?
Très bonne question. Être une maman parisienne, c'est plein de paradoxes. Moi, je rêve aujourd'hui de nature et de verdure pour mes enfants, et je rêverais d'avoir un jardin dans lequel elles peuvent s'amuser, et ce qui est difficile sur Paris, malgré le nombre de parcs qu'on peut avoir, mais qu'on partage avec des millions de personnes, donc ils sont toujours pleins à craquer. J'ai un manque de verdure et de nature sur Paris, et en même temps, je me rends compte de la chance qu'on a d'avoir une pléthore de propositions culturelles pour les enfants, gratuites et payantes. Moi, j'adorais emmener ma grande, quand elle était plus petite, faire des expositions au Centre Pompidou, par exemple, tu vois. Aujourd'hui, je le fais moins avec la petite, parce qu'elle est un peu plus hyperactive et que je me vois mal courir dans le musée après elle. Mais on a une chance de leur proposer plein d'activités hyper différentes. Donc, c'est tout ce paradoxe Paris, en fait. C'est de manquer de naturel et en même temps d'avoir une hyper proposition de culture.
Quel est ton endroit kids-friendly préféré à Paris ?
J'ai pas eu le bonheur encore de trouver un restaurant ou un café, tu vois, où j'ai le plaisir d'y aller avec mes enfants. Je dirais assez naturellement les parcs parisiens. Moi, j'adore aller au square à côté de chez moi, ou au parc à côté de chez moi avec mes filles. Les parcs.
Et quels sont tes projets rien que pour toi et ceux prévus en famille ?
Alors, mes projets rien que pour moi, en ce moment, je suis en pleine écriture d'un livre. Justement sur ma première année de slasheuse, donc ça c'est vraiment mon projet perso et ma fierté perso. Du coup, je vire assez régulièrement le week-end mon conjoint avec les enfants en lui disant va chez tes parents et faire ton potager, et puis moi je vais écrire pendant ce temps-là. Donc là, tout le mois de mai, il sait qu'il est viré de la maison le week-end. Et les projets familiaux, pour le coup, lui, il a lancé son potager il y a 2 ans dans le 95, et c'est une réunion de famille qu'on aime bien faire. La petite adore aller cueillir des fruits et des légumes dès qu'ils sont sortis, tu vois, au printemps et en été. Donc ça, c'est notre petit plaisir. Et puis les vacances de cet été qu'on attend avec impatience. On a le plaisir de faire la découverte de l'île de Ré cette année, et ça va être un pur moment familial, je pense.
Merci beaucoup, Claire.
Merci à toi.
Merci à tous d'avoir écouté Le Tourbillon. Et vous le savez, si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à lui mettre plein d'étoiles sur votre application iTunes. Pour échanger sur le sujet abordé avec Claire, je vous invite à retrouver la photo de l'épisode 26 sur Instagram grâce au hashtag Le Tourbillon Podcast et à laisser vos commentaires. À très vite pour un nouvel épisode.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.